Et sans plus tarder, nous vous invitons à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Salah Irung à la présentation.
Bonsoir, deux thèmes dans cette émission. D'abord, clôture ce mercredi dans le sud Kivu du processus de désengagement des groupes armés. Quel bilan dressé de ce processus? Ensuite, des combattants du groupe armé Pareco attaquent des positions des FARDC dans certaines localités du nord Kivu, notamment Kamandilak dans le Lubero. Comment analyser cette attaque des combattants du Pareco malgré leur implication au processus de désengagement? Pour la première partie, tous nos invités sont en ligne. Il s'agit de M. l'abbé Jean-Bosco Bahala, rapporteur général du Comité national de suivi des accords de paix, Joseph Assanda, porte-parole des ex-groupes armés du Sud Kivu, Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La cérémonie de la clôture officielle des opérations de désengagement et d'intégration des groupes armés du Sud Kivu aura lieu demain mercredi à Bukavu. Quel bilan dressé de ce processus? La réponse dans cet entretien de Michel Tchirimwani et Kaline Côté.
Michel Tchirimwani, bonsoir, vous êtes à Bukavu. Quel est le sens de cette cérémonie?
Bonsoir Kelly, cette cérémonie représente le symbole de la fin d'un long processus de désengagement des groupes armés depuis la conférence de Goma en janvier 2008. Un processus qui a été long et compliqué. Pour ce qui est de demain mercredi, la cérémonie se tiendra à la place Moulamba, en commune d'Ibanda, à Bukavu. Des combattants de presque tous les groupes armés reconnus au sud Kivu après les accords de Goma seront là.
Michel, est-ce que l'on peut dire que tout a été fait et quel bilan le programme Amani à Bukavu fait-il de cette opération?
Pour le secrétaire permanent du programme Amani au Sud Kivu, Célestin Bamwisho, plus de 3000 combattants sont passés par le processus d'intégration lancé il y a 3 mois dans 3 sites différents, à savoir le centre de regroupement de Libérizi, celui de Calais et enfin celui de Baraka en territoire de Fizi. Il faut aussi compter, selon la même source, les éléments du groupe Maïmaï et Shabunda, dont 1032 éléments sont enregistrés et actuellement regroupé à Kindu au Maniema, dans le centre de regroupement de Katako.
Mais pour les autres qui n'ont pas jusque-là franchi le pas du désengagement, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est fini pour eux?
Le programme Amani dit avoir donné des dates butoirs pour que les groupes réfractaires se conforment. Il pense que pour ces 3, un délai pourrait être donné, mais c'est maintenant aux autorités compétentes de poursuivre ceux qui ne se sont pas présentés dans le délai. Il avait été répété maintes fois qu'ils seraient considérés comme des bandits et traqué en conséquence. Pour conclure, Kelly, dans l'ensemble, le secrétaire permanent du programme Amani se dit satisfait de l'opération. En dépit de certains incidents, tout s'est bien déroulé pour ce processus qui a permis à certains membres des groupes armés d'intégrer l'armée nationale et à d'autres de retourner à la vie civile.
Monsieur l'abbé Jean-Bosco Bahala, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes rapporteur général du Comité national de suivi des accords de paix. Vous venez de suivre cette converse entre nos deux collègues, Kaline Côté et Michel Tchirimwami. Plus d'une année et demie après le lancement de ce processus de désengagement, quel bilan pouvez-vous en dresser au niveau du Sud Kivu?
Oui, je dis également que le bilan est largement positif. Il faut savoir que nous venons de très loin. Et lorsque on a commencé la conférence de Goma, il y avait plus d'une vingtaine de groupes armés qui se battaient sur ce territoire du Sud Kivu. Aujourd'hui, lorsque on dresse le bilan, on peut dire que le chemin le plus difficile a été parcouru, parce que si déjà 3000 hommes ont été intégrés dans l'armée et d'autres démobilisés, on peut dire qu'aujourd'hui la paix est plus proche de nous que au moment où on avait commencé ce processus.
Joseph Assanda, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le porte-parole des ex-groupes armés du Sud Kivu. Êtes-vous du même avis que M. l'abbé Jean-Bosco Bahala que le bilan est largement positif?
Oui, monsieur le journaliste, le bilan est largement positif, comme l'a dit l'abbé Jean Bosco Bala, du fait que nous avons passé un long moment, nous avons parcouru un long trajet depuis la conférence de Goma jusqu'à nos jours. Il y a eu certainement des temps forts et des temps faibles. Pendant une année, à la Commission technique mixte de sécurité, nous ne sommes tiraillés jusqu'à arriver aujourd'hui à avoir plus de 3000 combattants qui ont intégré dans les FARDC et les autres ont démobilisé. Ça signifie que le travail qui a été fait au niveau de la Commission technique et mixte de sécurité du programme Amani, ça a été un travail qui n'est pas tombé dans l'eau. C'est-à-dire que pour moi, en tant que porte-parole des groupes, des ex-groupes d'armée du Sud Kivu, je peux confirmer ce qu'a dit M. l'abbé Jean Bosco Bala, que le bilan est très positif et donc la paix est à la porte. Et je peux même dire que la paix est déjà là.
Mais on se souviendra qu'au début de ce processus, vous, les ex-groupes d'armée, avez donné des listes avec beaucoup de noms, mais 3 000 seulement qui sont intégrés dans les FARDC. Est-ce réaliste de votre part?
Oui, je sais que nous avons donné des listes. Les uns parlaient de 4 000, les autres 5 000, 6 000, bien sûr, et que nous sommes arrivés à un effectif de 20 000 et plus, il est vrai. Mais retenez une chose, monsieur le journaliste, que les combattants Maïmaï, ce sont des combattants qui se sont battus pour leur pays, et dont le processus n'est pas encore arrêté, c'est un processus. Ceux qui sont là, ça fait déjà un pas. Les autres, je peux vous rassurer que les autres sont en train de venir. Parce que la cérémonie de demain ne va pas mettre fin à tout. Il y aura des PV qui seront écrits. Et ces PV-là seront accompagnés des listes des autres combattants qui sont restés par-ci par-là. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est que parmi ces effectifs-là, il y a nombreux qui ont choisi la police. Et donc, ceux qui ont intégré, plus de 3000, ce sont les ex-combattants qui ont choisi l'intégration au sein des FARDC. Là, nous n'avons pas, je crois que sur les effectifs donnés, il n'y a pas ceux-là qui ont démobilisé. Il y a aussi les autres qui vont intégrer la police nationale congolaise. Ça fait déjà que, même si nous avons donné des chiffres un peu plus longs, mais c'est déjà un pas, dès lors qu'il y a plus de 3000 qui intègrent, les chiffres donnés par rapport au nombre de combattants intégrés, je pense que on peut espérer, nous pouvons dire que nous avons fait déjà un pas. Au lieu de donner un chiffre et ne pas présenter un seul combattant, je pense qu'il y a de quoi féliciter par rapport au travail qui est fait. C'est un travail qui est fait d'abord parce que je peux avouer que ce sont nos combattants bien sûr, mais qu'il y avait peu de moyens, il y avait presque pas de moyens. Pour les Sud Kivu, les gens se sont donnés parce qu'ils sont patriotes à donner tous leurs combattants et que nous pouvons d'abord nous féliciter du nombre qui est avancé par le secrétaire permanent du comité de gestion du Sud Kivu.
Merci Joseph Assamba, on vous garde encore dans cette première partie de l'émission. Bob Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous suivez quand même de près la situation à l'est du pays. Votre lecture par rapport à ce bilan très positif nous l'ont présenté M. l'abbé Bahala et Joseph Assamba.
Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Je dois vous dire d'emblée que je ne partage pas l'avis positif des deux intervenants précédents.
Et pourquoi?
Pour la bonne et simple raison, je ne partage pas l'avis de deux intervenants précédents. Pour la bonne et simple raison, que lorsque l'on parle des groupes armés, tout à l'heure, effectivement, M. Nabé Baal a parlé d'une vingtaine de groupes armés dans le Sud Kivu. Si je prends les chiffres qu'il avance, ça veut dire que chaque groupe a démobilisé quelques 150 hommes seulement. Dans les estimations que les groupes armés ont données, au moment du début de la démobilisation, on a parlé entre 30 000 et 35 000 hommes qui font partie de ces groupes armés. Et donc, ça veut dire, par rapport au processus, puisque nous sommes à la fin, ça veut dire qu'il y a seulement 10% de ces groupes armés qui sont démobilisés ou soit réintégrés, soit dans l'armée, comme l'a dit les deux intervenants, soit aussi dans l'armée. Je dois aussi souligner le fait que lorsque l'on parle de démobilisation et de réinsertion, il y a un gros problème pour ce qui concerne tout le programme, c'est-à-dire que il y a un principe clair qui concerne les hommes en armes, c'est-à-dire que lorsque les groupes qui sont concernés par le processus, c'est un homme, une arme. Et dans les estimations qui sont données, les 30 000 hommes qui sont concernés n'ont pas tous des armes. Et les chiffres qui ont été avancés il y a quelques mois, quand j'étais sur le terrain dans le sud Kivu, on parlait qu'il y avait un homme sur cinq parmi les groupes armés qui avait une arme. Quand on dit un homme sur cinq, ça veut dire qu'il reste plus de la moitié des gens qui sont concernés qui ne seront pas intéressés par le processus de désarmement ou bien de réintégration au sein de l'armée. Et donc, je ne partage pas du tout cet aspect positif du fait qu'il n'y a que 33 000 hommes qui ont été intégrés, alors qu'il reste encore, si je tiens bien compte des estimations qui avaient été données au début de du processus, donc il reste entre 30 000 et 32 000 hommes qui sont encore dans les groupes armés et qui continuent à constituer une source potentielle d'insécurité grave pour les populations civiles dans la province du Sud Kivu.
Donc, si je vous comprends, la paix n'est pas encore à l'ordre du jour dans le Sud Kivu.
Pour ma part, la paix n'est pas encore à l'ordre du jour dans le Sud Kivu, parce qu'il y a encore les 30 000, 32 000 hommes que je vous dis qui sont encore en attente. Il suffirait que qu'il y ait encore quelqu'un qui va recruter ces hommes, va leur donner des armes, et on risque de réassister de nouveau à une reprise de la violence dans cette partie du Kivu. Je vous rappelle aussi que tout le processus Kimia-2 pose quelques difficultés avec les groupes armés dans le Sud Kivu, du fait que certains groupes armés estiment que les groupes armés qui étaient dans le Nord Kivu, qui ont intégré le processus d'intégration dans l'armée congolaise, ont eu la part belle dans ce processus-là, au détriment de groupes armés du Sud Kivu. Et donc, on risque d'y avoir que tout ce potentiel de ces 30 000 hommes ou 32 000 hommes qui sont en attente risque de réintégrer d'autres groupes armés et de se réarmer contre et rentrer dans nouveau dans un processus de violence contre les populations civiles. Et la population civile au Congo, et surtout dans le Sud Kivu, n'a pas besoin de ça, alors qu'elle a déjà beaucoup souffert depuis plusieurs dizaines d'années.
Monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, vous venez de suivre Bob Kabamba, il ne partage pas votre optimisme. Il y a apparemment un flou au niveau de ce nombre des membres des groupes, des ex-groupes armés qui ont été avancés, et il dit que ce n'est que le dixième qui a réintégré les forces armées de la République démocratique du Congo. Que pouvez-vous dire pour le calmer, quoi?
Oui, bon, ce n'est pas lui qu'il faut calmer, hein. Il faut plutôt, j'allais dire, envoyer un message fort aux uns et aux autres. Le message est celui-ci. Et c'est vrai, lorsque je parlais donc de la vingtaine de groupes armés, je parlais du Nord et du Sud Kivu. Et il faut bien le comprendre, hein, parce qu'il y a eu 22 groupes armés qui étaient signataires de l'acte d'engagement. Donc, c'est à cela que je faisais allusion. Bien, lorsqu'il parle des chiffres avancés, je crois qu'il faut être réaliste. Certains ont probablement donné des chiffres exagérés, sans doute pensant que le nombre de gens que vous avancez vous donne tel ou tel avantage par rapport au processus qui suivait d'intégration et autres. Et je crois que le réalisme nous pousse à penser que ceux qui sont là sont les vrais, sont ceux qui étaient sur terrain. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des membres de nos groupes armés étaient des civils qui s'étaient probablement engagés avec l'idéal de défendre la nation comme ils disent eux-mêmes. Il est possible donc que certains ne se soient pas présentés au processus d'intégration, pensant que cela n'était pas nécessaire. Est-ce qu'on peut les considérer comme des hommes armés? Nous voulons prendre en compte ceux qui arrivent avec un homme, une arme, cela nous les versons dans l'intégration accélérée, l'intégration rapide. Ceux qui viennent sans armes entrent dans le processus de brassage normal et de démobilisation des DDRR qui a été mise en place. Je crois que l'inquiétude du professeur Bob Kabamba, que je salue d'ailleurs en passant, n'est pas de mise, parce que aujourd'hui, les FARDC vont contrôler et contrôlent effectivement la plupart des territoires qui étaient occupés anciennement par ces groupes armés. Nous pensons que c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est la reprise de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que c'est vrai, le phénomène des groupes armés, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un phénomène auquel il faut mettre fin. Un État ne peut pas laisser les citoyens se défendre eux-mêmes ou défendre le territoire eux-mêmes.
Merci, donc, M. Labbé.
Oui.
On vous a compris, M. Labbé. Hein, on vous garde encore dans ce débat le temps de donner la parole à Joseph Assanda. Joseph Assanda, vous les groupes, les ex-groupes armés du Sud Kivu, vous avez donné des chiffres exagérés au début du processus. N'êtes-vous pas là tombé dans votre propre piège?
Merci beaucoup. Nous ne sommes pas tombés dans notre propre piège, mais bon, nous savons aussi que le phénomène groupe armé, nous prenons les armes là chez nous, quand nous nous retrouvons devant les dangers, et quand le danger n'est plus là, mais bon, chacun rentre chez lui, dans sa maison, et il a le libre choix. Il peut dire que je vais aller dans l'armée, je vais me présenter pour démobiliser après, comme je vais me présenter pour intégrer les FARDC. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver, vous avez avant 10 000, et avec ce principe-là, qui consiste à choisir librement, soit on se présente, soit on ne se présente pas, parce qu'on est paysan, on est chez soi, et on se retrouve avec 1 000 ou 2 000. Mais les 2 000-là ne constituent pas un danger pour la population congolaise. Ceux-là qui n'ont pas intégré ne peuvent pas construire un danger dès lors qu'ils n'ont jamais fait de gaffe à notre population. Ils ne tuent pas la population, ils ne violent pas la population, ils ne font pas de dégâts à notre population, ce qui fait que la paix certaine, la paix ne peut pas être incertaine, bien que tous les chiffres des combattants qui ont été donnés ne se sont pas tous présentés. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce que je voulais préciser, c'est ce que M. Labbé Bala a précisé, c'est que les 20 groupes armés dont M. Labbé a parlé, ce sont les 20 groupes armés du Nord et du Sud qui vont. Et les chiffres qui les procureurs ont avancés, les 30 000, c'est les chiffres pour le Nord et le Sud qui vont. Et donc, au Nord qui vont, à lui seul, ils sont arrivés à près de 10 000, et dans le Sud qui vont, déjà, l'intégration n'est pas finie. Demain, nous allons seulement faire une cérémonie symbolique pour dire que nous mettons fin au désengagement et à l'intégration des groupes armés au sein des FARDC, bien sûr. Mais il y aura quand même une brèche. La brèche, c'est que chaque groupe armé pourra écrire un PV sur lesquels il va annexer la liste des combattants qui sont restés et ceux-là qui ont intégré la police. L'inquiétude des profs n'a pas encore de place, dès lors qu'il y a certains combattants qui vont intégrer la police nationale congolaise, il y a les autres qui vont démobiliser. Et puis l'intégration, c'est de FARDC. C'est un choix de la personne qui veut faire l'armée ou qui veut démobiliser.
Effectivement, vous l'avez déjà. Joseph Assanda.
De 20 000, par exemple.
Joseph Assanda.
Joseph Assanda. Si on accepte la démobilisation, il n'y a pas d'inquiétude.
Joseph Assanda, essayons de nous comprendre, hein, c'est un dialogue, vous êtes très suivi et il faudrait aider également nos auditeurs à mieux vous saisir. Professeur Bob Kabamba, vos inquiétudes sont-elles dissimulées après avoir suivi l'abbé Baala et Joseph Assanda?
Pas du tout, et ça ne fait que me confirmer de tout dans ce que je n'ai pas eu de réponse en fait sur un point. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de processus de démobilisation et de réinsertion des combattants, il faut bien se rendre compte que dans le processus tel qu'il est défini et appuyé par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement, il y a un principe clair, c'est-à-dire un homme, une arme. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire un homme, une arme. Or, c'est-à-dire qu'on ne démobilise que ceux qui viennent avec une arme. Or, il y a dans les groupes armés, plein de militants, de miliciens qui sont dedans et qui n'ont pas d'armes et qui sont dans les groupes armés. Et c'est cela dont je parle. Et le principe qui est un homme, une arme, ne permet pas de pouvoir dire actuellement que si on ne revoit pas ce principe-là, qu'on va arriver à résoudre le problème des groupes armés. C'est-à-dire, dans les groupes armés, si je prends n'importe lequel, ça veut dire que sur les, par exemple, ils donnent une estimation de 100 000 hommes ou bien de 6 000 hommes. Sur les 6 000 hommes, ça veut dire qu'il y a 1 500 hommes qui ont une arme, qui seront concernés par le processus de démobilisation. Et il reste 4 500 qui ne seront pas concernés parce qu'ils n'ont pas d'armes. Mais ça ne veut pas non plus dire que ces 4 500 ne sont plus des groupes armés. Il reste des groupes armés. Et lorsqu'il va y avoir n'importe quel bonhomme qui va arriver dans le sud qui vous recruter ces gens, mais ces gens-là vont aller dans n'importe quel groupe armé et reprendre les armes. Et c'est ça ma préoccupation que je voudrais réinsister pour que l'on comprenne bien sous ce principe-là des éligibles et non éligibles. Et c'est ça aussi qui me fait craindre que lorsque l'on dit qu'il n'y a que 3000 hommes qui ont accepté, qui ont intégré le processus, je reste, et j'affirme aussi, qu'il reste, ça veut dire, entre 30 000 et 32 000 hommes, quel que soit le nombre, quel que soit l'endroit, comme le dit M. l'abbé Baala, soit au nord, soit au sud Kivu, ça veut dire que dans les deux provinces, il reste encore entre 30 000 et 32 000 hommes qui pourraient prendre les armes et répandre la violence contre la population civile.
Merci. Monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, vous venez une fois de plus d'écouter le professeur Bob Kabamba. Il pose toujours le problème au niveau de la démobilisation et de la réinsertion. Et en plus, hein, avant de l'éclairer, il y a aussi les FRS qui continuent à poser problème dans le sud Kivu.
Oui, je crois que le professeur Kabamba dit des choses pertinentes au niveau de la logique qui est la scène où il parle à partir du promontoire. Enfin, nous avons une autre logique ici. Nous avons pris comme base. Cette base, c'est que les gens qui se présentent, ceux qui viennent avec une arme, eh bien, vont dans l'intégration accélérée, ceux qui ne viennent pas avec une arme poursuivent l'intégration. Mais il faut savoir que le processus de désengagement et d'intégration va être couplé avec un autre processus, celui-là, qui est social et humanitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir qu'on a lancé déjà, le chef de l'État a signé une ordonnance dernièrement lançant le programme de stabilisation et de reconstruction des zones anciennement sinistrées par la guerre. Et c'est ce programme là-bas qui va prendre en charge tout cela, qui n'iront pas dans l'armée, qui va les prendre en charge au niveau du développement parce qu'ils seront versés dans les projets intégrateurs, ils pourront donc travailler au développement. Nous ne désespérons pas, nous ne disons pas que demain, ces gens là-bas vont reprendre les armes. Parce qu'ils vont les reprendre pourquoi? S'il y a des aventuriers qui aujourd'hui reprennent les armes ou bien retournent dans la forêt, on l'a bien dit, ils seront considérés comme des bandits à main armée. Et des bandits à main armée, il y en a toujours eu, et l'État a le devoir de défendre la population, de la protéger contre des gens comme cela. Mais donc pour nous, le processus est vraiment bien engagé.
Monsieur l'abbé Baala, vous n'avez pas répondu à la question question sur les SRF, hein, mais c'est aussi, ce n'est pas aussi la première fois hein, qu'un délai est donné à ces groupes armés, à ceux qui ont refusé d'intégrer le processus. Il y a même aujourd'hui un communiqué du haut commandement des FRDC qui va dans le même sens, que ces gens seront considérés comme des bandits et traqués en conséquence. Qu'est-ce que vous répondez brièvement en bloc à cela?
En tout cas, nous, au niveau, par exemple, du Comité national de suivi des accords de paix, nous avons parlé aux uns et aux autres de façon très claire. Nous avons un processus qui se poursuit, qui comprend beaucoup de volets, le retour des réfugiés, la mise en route des projets intégrateurs, etc. Nous avons dit, et c'était clairement dit, que ceux-là qui refuseront d'entrer dans le processus en cours aujourd'hui n'auront plus qu'une deuxième chance. Parce que le chef de l'État est déterminé, et l'armée l'a même bien martelé, il est déterminé à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous avons même été encouragés en cela par nos évêques, les évêques du Kivu, qui dans leur dernière lettre ont demandé même au gouvernement d'arrêter de faire croire aux gens que chaque fois qu'ils prennent les armes, ils peuvent accéder au pouvoir, ils peuvent accéder à la voir, ils peuvent avoir de l'argent. Et cette aventure-là, il faut qu'on y mette fin.
Merci,
je crois que le message est celui-là.
Merci, M. Labbé. Avant de clôturer cette première partie, nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Mamboura de Boutembo Nord, si vous dit ceci, lorsqu'on poursuit deux lièvres à la fois, on en perd un. Le processus de désengagement au sud Kivu ne sera pas possible tant que le nord Kivu est encore sous la foudre. Guillaume Le Brackbert de Mahagui dans la province orientale demande quel bilan le gouvernement congolais dresse aujourd'hui de ce processus de désengagement. Robert Baomé de Bukavu au sud Kivu demande si le désengagement des groupes armés au sud Kivu a réellement été un acte de bonne foi de ces derniers. Olivier Kangamampou de Mbujima au Kassai Oriental demande quelles sont les stratégies préventives prises par le gouvernement congolais à l'égard des groupes armés qui engagent une action militaire offensive au cours du processus de désengagement. Quelles seront les stratégies d'intégration de ces combattants dans la police, veut savoir le prof Ubegiu Ungekan de Mahagui en province orientale. Joseph Assanda, en 30 secondes, hein, donner une réponse brève par rapport à ces réactions des auditeurs.
Merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que je suis très rassuré que le gouvernement a pris des dispositions par rapport aux groupes armés réfractaires et qu'il va s'en occuper parce que l'État ne doit pas évoluer avec la logique des groupes armés, bien que moi-même je sois issu d'un groupe armé. Je voulais aussi rassurer que le désengagement dans le sud Kivu est possible et il s'est fait. Et donc, la population et tous les auditeurs peuvent s'apaiser que la paix est certaine et la paix sera une réalité. Mais malheureusement, j'ai été coupé quand je voulais donner une précision au prof par rapport à l'intégration accélérée et classique, par rapport aux combattants qui ont les armes et qui n'ont pas les armes. Ça, c'est une précision parce que c'est comme si le prof n'a pas l'information. C'est ce que je voulais lui dire, mais malheureusement, vous m'avez coupé. Je voulais dire...
La Bébala a donné cette précision-là. L'abbé Baala a donné ses précisions. Joseph Assanda, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette première partie de l'émission. Ça nous permet en même temps de vous libérer pour passer à la deuxième partie. En attendant d'avoir notre troisième invité qui va nous rejoindre dans cette émission, Didier Bitaki. Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi quelques réactions des auditeurs. Comment vous pouvez y répondre?
Ben oui, je ne peux que acquiescer à ce que la plupart des auditeurs ont dit. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans un processus de démobilisation et de désarmement, il faut se donner les moyens de pouvoir réussir cette politique. Malgré la bonne volonté des différents animateurs de ce programme, notamment, je pense que vous l'avez souligné, M. Labbé Baala, qui est appliqué vraiment depuis plusieurs années dans un processus de pacification de cette région, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut avoir les moyens de sa politique. Malheureusement, il faut l'avouer, le gouvernement congolais ne donne pas aux différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus de pouvoir mener le politique de désengagement et de démobilisation des groupes armés à bien. Et sans moyens, c'est-à-dire moyens aussi bien sociaux, aussi bien moyens militaires, aussi bien moyens financiers, on n'arrivera à rien avec ces groupes sociaux.
Merci, professeur.
Avec les groupes armés.
Merci, professeur. Deuxième partie de cette émission, des combattants du groupe armé Pareco attaquent des positions des FARDC dans certaines localités du Nord Kivu, notamment en Kamandu-Lac, dans le Loubero. Comment analyser cette attaque des combattants du Pareco malgré leur implication au processus de désengagement? Pour cette deuxième partie, nos invités sont Abbé Jean-Bosco Bahala, rapporteur général du Comité national de suivi des accords de paix, Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, Didier Bitaki, porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu, qui vient de nous rejoindre dans ce débat. Des combats ont été à nouveau signalé en Nord Kivu la nuit dernière. Ils ont opposé les FARDC aux combattants du Pareco dans le village de Kamandu-Lac. C'est à plus de 100 km au sud du chef-lieu du territoire de Loubero. Le bilan fait état de 6 combattants Pareco tués, 2 armes récupérées et un militaire de l'armée régulière blessé. Selon le commandant FARDC sur cet axe, la situation est actuellement sous contrôle de l'armée. Ces combattants du Pareco ont été repoussés jusque dans le parc de Virunga. Denis Oukesso pour les détails.
C'est vers minuit que l'offensive a été menée par les combattants du Pareco alliés au FDLR sur les positions des FARDC à Kamandu-Lac, indique les sources sur place. Cette attaque a été vouée à l'échec d'après les responsables des FARDC dans ce secteur. Les assaillants ont été repoussés à plus de 10 km de Kamandu-Lac avant d'être dispersés dans le parc où ils ont été poursuivis par les FARDC. Le bilan provisoire fait état de 6 Pareco tués, dont un officier. Côté FARDC, on enregistre un seul blessé, indique de sources militaires. Le colonel Touma ajoute que le calme est revenu depuis 6h du matin à Kamandu-Lac. La présence des FARDC a même été renforcée ce mardi matin. D'autre part, les administratifs à Kamandi signalent le déplacement de toute la population suite à ces affrontements. Plusieurs sources jointes dans ce secteur indiquent que les Maïmaï Pareco réfractaires au processus d'intégration sont devenus très actifs dans cette zone. Ils se réorganisent pour reprendre le contrôle de leurs anciennes positions qu'ils occupaient jadis. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des ex-groupes armés du Nord qui vous... comment vous analysez cette attaque des combattants du Pareco? En plus de cette attaque, il y a beaucoup d'autres attaques qui ont été signalées ces derniers temps. Par exemple, ce lundi, il y avait des accrochages entre combattants du Pareco et FARDC dans une localité entre Lunyasinghe et Tali, en territoire de Loubero. Le week-end dernier, dans le secteur de Nyabiondo, c'était des tirs entre FARDC et Maïmaï de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS. Et le 30 juin dernier, c'était une coalition des FDLR et des Maïmaï qui ont attaqué une position des FARDC à Kasege. Comment vous expliquez toutes ces attaques?
Bon, écoutez, messieurs les journalistes, je crois qu'on doit faire la part des choses. Pareco est devenu parti politique. Et Pareco que je cite ici est dirigé d'abord, il y a une aile Pareco qui est dirigée par le président Sendou Mousseveni, il y a une autre aile dont je ne connais même pas le président. Si on parle des affaires qu'elle a fait par Pareco, moi je ne connais pas le Pareco qui a attaqué les femmes de ci. Le Pareco que je reconnais, c'est celui qui se trouve dans le processus de paix engagé à Goma. En deuxième lieu, s'il faut parler de Pareco, si quelqu'un d'autre, il avait déjà été intégré, je crois on a toujours cité le général Lafontaine, qui est celui qui est rentré dans la brousse pour faire la guerre contre le gouvernement. Je crois, selon les propos du général Lafontaine, qu'il a tenu à RFI, il a bien précisé qu'il n'est plus de Pareco, mais il appartient, je ne sais pas si c'est à FPC, là, si c'est Front Patriotique Congolais. C'est ça son mouvement, c'est ne plus Pareco. En troisième lieu, vous évoquez l'attaque que les FDLR ont menée en coalition avec la PCLS, mais bien, vous devez savoir, la PCLS est engagée dans le processus. Nous sommes dans cette émission avec M. Labbé Bahala. Et même dans le comité national, dans la réunion du samedi passé, j'ai eu à les préciser qu'on nous dise, est-ce que nous sommes dans ce processus de paix avec la PCLS ou non? Mais si la PCLS est reconnue appartenir au comité national de suivi et qu'il a des représentants dans cette structure, il appartient maintenant au comité national de suivi de préciser alors une chose, si on est avec les FDLR dans le comité, si on n'est pas avec les FDLR dans le comité. Mais quant à ce qui concerne les ex-groupes armés du Nord Kivu, je tiens à le préciser aujourd'hui qu'il n'existe plus. Malheureusement,
il y a un mauvais traitement qui ressort dans les chefs des différents commandants ici, d'un groupe ou d'un autre, qui tient la commande des affaires sur le terrain, qui maltraite les ex-combattants ici des différents groupes Maïmaï, autres que les FNDP. Et à la suite des frustrations issues de cela, c'est ce qui pousse les différents combattants, certains d'autres indisciplinés, à rentrer, retourner dans la brousse parce qu'ils sont frustrés. Mais ce sont des petits problèmes qu'on peut minimiser. Mais il ne faudra pas parler de Pareco, il ne faudra pas parler de notre groupe bien identifié qui a signé. La fin de l'existence de ce groupe-là comme armé, le 18 avril 2009.
Merci.
Parce que le gouverneur lui-même l'avait tenu au cours d'une émission du 19, où il a dit qu'il n'existe aucun autre groupe armé dans le Nord Kivu.
Tous ceux
qui peuvent être dans la forêt sont des bandits à mi-armée. Alors je ne sais pas si cela est contredit par lui-même.
Merci Didier Bitaki, on vous garde encore dans cette émission. Monsieur Rabi Jean Bosco Bahala, peut-on considérer ces attaques entre combattants Maïmaï de d'autres factions citées ici et FARDC comme une manifestation de frustration de la part de ces groupes armés?
Oui, je suis bien content de la réponse que mon jeune frère Didier Bitaki vient de donner tout de suite. Et je suis heureux que ce soit un des membres des ex-groupes armés qui parle lui-même de ce sujet en termes de non-existence maintenant actuellement des groupes armés, de la dénomination groupes armés. Et c'est donc bon que les auditeurs sachent que celui qui reprend la guerre contre le gouvernement aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du processus de paix que nous avons, et il est considéré, nous l'avons bien dit, comme un hors-la-loi. Et donc cela doit être entendu. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne crois pas que le processus est en danger à cause de cela. J'appelle cela les scories qui gênent, n'est-ce pas, après une éruption qui a eu lieu. Et j'appelle cela les lenteurs, les problèmes qui peuvent surgir lorsque un processus est en cours. Et ces problèmes-là ne peuvent pas ne pas avoir lieu parce que chacun a sa manière de concevoir les choses, chacun vient avec ses propres intérêts, et qu'on se rend compte que de plus en plus, parfois les états d'âme entre les différents chefs des groupes armés finissent par créer des situations malheureuses pour la paix. Par exemple, en ce qui concerne la CPLF, nous avons des assurances que le chef de ce groupe, donc Janvier, est prêt à rentrer, est prêt à revenir. Et apparemment, je crois que le processus est en cours pour qu'il puisse être récupéré dans la brousse. Donc ces malentendus peuvent créer peut-être des situations malheureuses pour la paix, mais ce sera certainement vite résorbé.
Professeur Bob Kabamba, vous venez de suivre Didier Bitaki et M. Labbé Bahala, qui sont une fois de plus très positif, hein. Mais comment peut-on résoudre, à votre avis, définitivement ce problème des groupes armés? Il y en a qui naissent, il y en a qui intègrent le processus, il y en a qui renaissent encore après. Finalement, comment résoudre définitivement ce problème?
Oui, je vous remercie beaucoup. Dans cette deuxième partie, vous venez de montrer, par l'exemple du Pareco, ce que j'étais en train d'expliquer par rapport au Suisse Kivu. C'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'on a résolu un problème parce qu'on a mis tout le monde dans un processus de mobilisation, il y a toute une série de gens qui ne sont pas concernés par ce processus et qui reprennent les armes, comme on vient de le vivre avec, je ne sais plus ce que je veux dire, si c'est Pareco ou pas Pareco, si j'entends bien le porte-parole de Pareco. Et j'aimerais dire aussi à M. Labbé, effectivement, que la bonne volonté ne suffit pas. Et que c'est ça aussi que l'expression du Nord Kivu vient de le démontrer. De manière très claire, apparemment, la plupart des groupes armés ont bien compris la logique. C'est-à-dire qu'il faut prendre les armes, il faut attaquer, il faut commettre des exactions pour pouvoir être écouté et pour pouvoir être réinséré dans un processus qui va vous permettre d'avoir des dividendes politiques, des dividendes militaires, etc. Et c'est cette logique-là, malheureusement, qui est de mise dans les deux provinces, qu'il faut essayer de casser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à récompenser les gens qui continuent à prendre des armes contre la population civile et contre l'État congolais lui-même.
C'est-à-dire qu'on a, l'impression que lorsque l'on prend des armes, le commet des exactions, que l'on attaque les FADC, à ce moment-là, on est pris en considération, et à ce moment-là, on a une division politique. Or, cette logique-là, qu'on n'est plus dans cette logique-là, on est dans une logique d'élection, il y a déjà eu des élections par rapport au mode d'accession au pouvoir, mais on a l'impression qu'il suffit de prendre des armes pour pouvoir accéder au pouvoir. Et le cas du CNDP devient un cas d'école, c'est-à-dire il faut que vous preniez un mouvement armé pour pouvoir, si on tient compte du fait qu'il va y avoir des négociations et des discussions au niveau des Kinshasa, que le CNDP va intégrer le gouvernement central. Alors si le CNDP est dans cette logique-là, alors pourquoi pas les autres groupes vont aussi rentrer dans la même logique, je prends des armes, je commets des exactions, j'attaque les FADC, et à ce moment-là, on me prend en considération, et peut-être, je pourrais avoir des dividendes politiques, ça veut dire l'accession au pouvoir. Et donc, pour ma part, ce qu'il faudrait faire pour répondre de manière aussi plus précise à votre question, c'est de consolider justement l'état de droit dans cette partie de la République. Consolider l'état de droit, ça veut dire avoir une armée, que l'armée soit en mesure de pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes dans cette partie. Malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas encore le cas. Et donc, tant qu'on ne pourra pas arriver à avoir cette armée qui va protéger les populations, on sera, malheureusement, je le crains bien fort, dans cet engrenage où je fais la guerre, où je fais des exactions.
Merci, professeur.
Parce que j'espère avoir un poste politique.
Merci, professeur. On vous a compris. Il nous reste 4 minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander des réponses très concises, hein, très brèves, pour nous permettre de bien atterrir. Didier Bitaki, porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu, comment, à votre avis, hein, peut-on mettre fin à ces cercles vicieux, hein, à cette logique dont vient de parler le professeur Bob Kabamba, qui sert à récompenser des gens qui ont pris des armes, à leur donner des postes, ainsi de suite?
Bon, écoutez, pour qu'il y ait une solution, je crois qu'il n'est pas ici de continuer des Congolais en les faisant la guerre. Ce que je recommande, tant aux autorités politiques que militaires, il faut qu'on fasse de la justice à l'égard des combattants ici d'autres groupes armés, autres que les CNDP. C'est-à-dire, mais je voudrais dire qu'on doit considérer tout le monde comme Congolais, tout le monde comme au même pied d'égalité, et que les Congolais, notre pays, il nous appartient tous. Ce sont là les propos du chef d'état-major général, en qui je fais confiance, qui essaie de prêcher jour et nuit aux militaires que ça devrait être ça l'idéologie de tous. Mais malheureusement, c'est parfois à un certain niveau, au niveau du terrain. Je vous rappelle que même il y a des militaires qui sont intégrés dans ces groupes armés, ici des différents pareco, Maïmaï tel, Maïmaï je ne sais quoi jusqu'à X. Ce sont des éléments qui sont déjà dans les FADC, mais qui malheureusement se plaignent, qui n'ont pas touché leur solde depuis que les autres ont été payés. Vous vous imaginez que des cas pareils arrivent, c'est ça l'injustice qui fait que certains retournent de la bourse. Mais si la justice est faite à tout le monde, je ne crois pas qu'on puisse avoir encore des problèmes. Il y a d'autres éléments qui, au lieu d'être intégrés, ils venaient d'être arrêtés avec leurs grèves d'armes, les éléments ils appellent tous les jours, étant au nombre de 1355 qui se trouvent actuellement à Tchamboucha. Et ces éléments-là sont frustrés, ils viennent encore de retourner dans la forêt. À qui la faute, c'est pas à nous, c'est pas aux officiers supérieurs ou aux chefs de l'armée, mais c'est plutôt à ceux qui sont supérés. Je crois que des instructions claires doivent être transmises au commandement tant des opérations Kinyadé qu'au commandement général de l'armée, juste pour faire justice à tout le monde, et je crois qu'il n'y aura plus de problèmes.
Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala, finalement, quel sens vous accordez à ce processus de désengagement? Vous venez même de suivre Didier Bitaki qui vient de dire qu'il y a d'autres membres des ex-groupes d'armée qui sont rentrés dans la forêt. Quel sens vous accordez à ce processus?
En tout cas, moi, je ne peux pas dire que je suis pessimiste par rapport à ce processus. Parce que quand je vois les discussions que nous avons ensemble au niveau du Comité national de suivi des accords de paix, quand je vois la détermination, j'ai entendu l'autre jour, nous étions en réunion avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée et le chef d'état-major des opérations de Kinyadé, nous avons passé en revue les problèmes effectifs qui peuvent se passer sur le terrain et j'ai senti la détermination qu'ils avaient à aller jusqu'au bout de l'action qui est menée actuellement.
Merci.
Et cette détermination, c'est que la discipline dans l'armée devra régner, mais aussi du côté de ceux qui ont signé les accords, il ne faut plus qu'il y ait des prétextes pour reculer, pour créer des barrières, pour revenir
merci
dans la soirée, pour reprendre les armes. Tous ces prétextes, on a dit, ils ne sont plus de mise. Et je crois que ce n'est pas de droit qu'il faut rétablir. Je suis d'accord avec le professeur Bob Kabamba. Et je crois vraiment qu'il faut, il est temps que l'État congolais rétablisse son autorité sur l'ensemble de son territoire.
Merci,
et puis, créer l'État de droit.
Merci, monsieur l'abbé. Professeur Bob Kabamba, en 10 secondes, votre conclusion. On termine par
en 10 secondes, il y a beaucoup de personnes de bonne volonté qui veulent travailler pour le rétablissement de la paix, comme le professeur, comme M. Labbé, comme il est engagé dans ce processus-là. Malheureusement, il manque les moyens de la politique
merci
pour pouvoir rétablir la paix dans ce
merci, processus. Professeur. C'est par vous que nous terminons. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.